franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, cyberattaque mondiale, doit-on craindre une nouvelle forme de terrorisme avec Nicolas Harpagian et Nicolas Kovacs.
Il s'avère que si on prend en plus des organisations comme Daesh qui étaient dotées de ressources financières importantes liées à l'économie du pétrole, liées à l'extorsion et aux raquettes, dès lors qu'ils auraient la capacité financière d'utiliser des ressources, on parle beaucoup de crime as a service, c'est-à-dire de prestations. Aujourd'hui, si vous cherchez par exemple un petit logiciel pour saturer le site de franceinter.fr, ça vous coûtera quelques dizaines de dollars.
Oui, donnez pas de mauvaises idées, vous êtes gentil, merci.
Bien sûr, mais c'est un cas illustratif, même à partir de votre navigateur, de votre moteur de recherche favori, vous trouverez cette solution. Pourquoi ? Parce que dès lors qu'il y a eu une demande qui est exprimée, en fait là on est dans un monde éminemment libéral, des offres sont mises à la disposition et il n'y a pas tellement de barrières techniques ni de barrières financières. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être un technicien, celui qui va utiliser l'outil n'a pas besoin d'être celui qui l'a conçu et en plus il n'y a pas de barrières financières, ils sont à des prix tout à fait, enfin en tout cas abordables, quelques dizaines d'euros. Et donc on va bien voir que effectivement on doit s'habituer à vivre dans un monde d'insécurité. C'est pour ça que c'est davantage des mesures de protection, de défense. Je sauvegarde mes documents, je me mets en position de fonctionner peut-être dans un mode dégradé, plus rustique, temporairement, avant de revenir à la normale, mais je ne pourrais pas vivre dans un monde hygiénisé à fond, dans lequel il n'y aurait aucune bactérie, aucun risque numérique, parce que rappelons-le, ce sont des créations humaines, elles sont donc perfectibles, et puis ceux qui attaquent sont également des humains, et donc ils peuvent avoir des sentiments offensifs.
Donc beaucoup de prévention dans ce message.
Certainement, c'est une démarche salutaire.
Nicolas Kovacs, pour réagir.
Oui, c'est exactement ça en fait, il y a des services sur internet qui pour 10, 20, 30 dollars, on a exactement ce type de ransomware qui se propage alors différemment, par mail par exemple, mais on peut effectivement payer pour un service et du coup potentiellement se faire de l'argent directement par ça, en se faisant payer par des bitcoins par exemple.
Alors,
bitcoin,
il y a beaucoup de questions là-dessus. Alors pourquoi justement ce recours à cette monnaie virtuelle?
La monnaie virtuelle, on va dire qu'elle est moins traçable. On passe plus par des banques, c'est décentralisé. On peut savoir un petit peu tous les paiements qui sont faits sur un wallet particulier, sur un portefeuille électronique particulier qui est lié justement à son propre compte. Mmh. On peut voir qu'il y a des virements ou des virements reçus et envoyés, mais c'est difficilement retraçable jusqu'à la personne finale. Puisqu'en fait, il y a plein d'échanges qui peuvent être faits qui noient un petit peu justement la transaction d'origine, on va dire.
Mardi, vivre comme un blaireau avec l'anglais Charles Foster.
Mon copain Bert, avec qui j'ai fait beaucoup de voyages plus ou moins agréables dans différents coins du monde, dans les montagnes noires du Pays de Galles. Et lui, en fait, il a une machine pour creuser. Il a creusé un trou et je suis allée avec mon fils pour y vivre. Et en fait, cette expérience, c'était de travailler sur le paysage olfactif. Nous avons plutôt des paysages visuels, des paysages même imaginés. Nous avons une vision, nous avons quelque chose que nous voyons et nous créons un autre univers à travers notre vision. Mais nous avons aussi le sens olfactif. Une personne sur trois peut sentir son propre t-shirt parmi trois autres t-shirts qui lui seraient présentés. 50% des êtres humains peuvent identifier notre t-shirt parmi 10 t-shirts qui nous seraient présentés. Nous avons donc un bon sens olfactif, mais on ne le valorise pas assez. Si vous descendez au sol de la forêt, là vous découvrez beaucoup de choses. La façon dont les odeurs montent lorsque le soleil chauffe la terre, comment les odeurs montent du fond de la vallée vers le haut de la montagne, comment les odeurs peuvent faire des ricochets entre les arbres. C'est comme les marées en fait. Vous pouvez les lire comme un marin lirait les marées de la mer. Et en fait, vous apprenez qu'il n'y a pas de monoculture dans la nature. Si vous déplacez votre nez de quelques centimètres dans la forêt, vous allez rencontrer des odeurs complètement différentes, un écosystème nouvel. Ce sont des choses merveilleuses que nous avons choisi de ne pas connaître parce que nous avons choisi de vivre en hauteur et non pas au niveau du sol. Et nous sommes donc que des êtres visuels.
Mercredi, quels sont les symptômes du trouble borderline avec Déborah Ducasse et Véronique Brand-Harpon.
Ce trouble de la personnalité comprend quatre grandes dimensions. La première dimension, c'est ce qu'on appelle une dysrégulation émotionnelle. Donc finalement, c'est une difficulté à réguler les émotions. Donc ce sont des personnes qui sont très sensibles, qui ont un seuil d'activation bas des émotions et des émotions particulièrement intenses. L'émotion se déclenche pour des petites choses, une intensité importante, et puis ça va mettre du temps à redescendre. Et ça va conduire à des niveaux de tension émotionnelle très élevés au cours d'une journée chez les personnes qui souffrent de ce trouble. Et par ailleurs, chez les personnes borderline, on a un sentiment chronique de vide, une perturbation de l'identité, c'est-à-dire la difficulté à identifier qui je suis, ce que je veux faire de ma vie. Et finalement, la tendance à coller à la perception et aux attentes des autres pour orienter mes actions dans la vie. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la dysrégulation émotionnelle. Ensuite, il y a une autre dimension qu'on appelle l'impulsivité. L'impulsivité, c'est finalement le fait qu'il y ait peu de temps entre le moment où j'ai une pensée, une émotion, et le moment où je passe à l'acte. C'est du tac au tac. Mmh. C'est-à-dire que face à une tension émotionnelle, un inconfort interne.
Il y a une réaction immédiate sans avoir un temps de réflexion. Hein.
Tout à fait. Une action qui va viser à soulager mon inconfort sur le court terme, mais ce n'est pas efficace finalement pour ma vie, pour prendre soin de moi, pour prendre soin de mes relations. On peut donner en guise d'exemple, par exemple, des comportements addictifs, fumer des joints, boire de l'alcool pour diminuer ma tension interne, mmh. ou même finalement... Le fait d'avoir finalement un comportement agressif vis-à-vis de quelqu'un de mon entourage, sous le coup de la colère, donc c'est-à-dire mes mots dépassent mes pensées, ça peut être aussi finalement les scarifications, les tentatives de suicide, donc ces comportements qu'on appelle autodommageables, qui ont une même fonction, celle d'éviter la souffrance.
Et il y a une répétition apparemment de ces comportements qui est très identifiée. Hein.
Exactement, il y a une répétition.
Ça fonctionne un peu comme des sorties de secours. On est tellement mal qu'on prend le premier moyen qu'on sait fonctionner pour faire baisser cette douleur-là. Et à ce moment-là, on est vraiment juste dans le court terme et parfois au détriment justement de projets de vie un peu à plus long terme.
Jeudi, les applications concrètes des travaux du physicien Pierre-Gilles Degenne avec David Quéré.
La superconductivité a trouvé de grands domaines d'application, en particulier depuis qu'on en a élevé la température critique dans les années 80-85. Degenne, à ce moment-là, d'ailleurs, a replongé brièvement dans ce vieux domaine. Et 30 ans après, cette supraconductivité à haute température reste mystérieuse, mais elle a des tas d'applications.
C'est-à-dire, par exemple, en IRM,
par exemple, aujourd'hui, on verse de l'azote liquide pour que le très grand champ magnétique qui soit engendré par des bobines soit fabriqué par un courant qu'on lance et puis qui perdure, si bien que le champ magnétique perdure aussi longtemps qu'on versera de l'azote liquide, liquide assez bon marché dans les bobines. Sur la physique des polymères, il a énormément changé notre vision des polymères. Et là, il y a beaucoup d'applications, mais il y a surtout un domaine entier scientifique qui s'est créé parce que on était dans une chimie appliquée, enfin même pas une chimie noble. Et il en a fait un objet de physique fondamentale. Il a donné vraiment ses lettres de noblesse à quelque chose qui était inconsistant, on va dire. Donc c'est très différent comme influence, mais elle n'est pas moins profonde finalement. On pourrait dire aussi sur la physique du mouillage que il a complètement renouvelé notre regard sur les choses, à nouveau en prenant du banal, du quotidien, et en le regardant différemment. C'est ça, une partie en tout cas du style de Degenne, c'est de renouveler notre regard sur des objets qu'on croit connaître. Et cette espèce de simplicité dans la démarche, je crois, est une des causes de son rayonnement.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur franceinter.fr à la page de La Tête au Carré.